Alors, on va lire Romains 8, 18 ensemble. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés, ou bien que nous sommes sauvés selon les traductions. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On va commencer par ces versets, du verset 18 à 27. Et la première chose qu'il faut noter ici, dans ce passage de Romains 8, c'est que du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire jusqu'au verset 39, le contexte, c'est le contexte des souffrances et de la persécution. Paul dit: j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent, parce qu'il a dit au verset 17, on pourrait même dire depuis le verset 17, si toutefois nous sommes cohéritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. C'est-à-dire que la souffrance, les persécutions font partie de la vie chrétienne. Regardez par exemple à la fin du chapitre 8, verset 36, selon qu'il est écrit: à cause de toi, on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Donc ça, la citation d'un psaume, mais qui veut dire: on est considéré par les ennemis du christianisme comme des brebis qu'on peut égorger, qu'on peut mettre à l'abattoir sans problème et qu'on peut tondre. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de, comment dire, la persécution fait partie du lot. Jésus a dit: heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira du mal de vous, etc. Paul a dit: tous ceux qui voudront vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés, dans l'épître à Timothée. Donc, on sait que ça fait partie de la vie chrétienne. Et là, Paul dit: si toutefois nous souffrons avec lui, verset 18, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. On en avait déjà parlé, mais ça veut dire que tout la suite du chapitre, à partir disons, du verset 17-18 jusqu'au verset 39, il faut le comprendre dans ce contexte de la souffrance et de la persécution. Il y a des souffrances dans le temps présent, mais elles doivent être mises en perspective avec la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc ensuite, Paul dit: la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que d'un côté, nous, en tant que fils de Dieu, nous avons une gloire qui nous est réservée, d'accord? Et puis la création elle-même, elle attend que cette gloire soit révélée pour nous. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'à ce moment-là, elle sera débarrassée de la vanité, verset 20, c'est-à-dire la corruption du péché qui la fait souffrir elle-même. On pourrait parler de tout ce qui se passe au niveau de des catastrophes écologiques et la pollution de la planète et des difficultés de la planète. Tout ça Indirectement, c'est le résultat du péché. D'accord? Il y a un texte dans Ésaïe qui dit que la terre chancelle sous le poids de son péché. Et certains, alors ça c'est vraiment des hypothèses qui ne sont pas prouvées évidemment, mais certains font l'hypothèse qu'au moment du déluge, l'axe de la terre, on sait que la terre elle est un peu penchée comme ça, hein, autour du, quand elle tourne autour du soleil, et certains pensent qu'avant le déluge, l'axe de la terre aurait été droit et que tous les cataclysmes du déluge et les tremblements de terre de ce moment-là aurait fait dévier l'axe de la Terre. C'est pas impossible, mais il reste encore à le prouver. Et ça viendrait, enfin, ce serait en relation avec ce texte de Ésaïe qui dit « La Terre chancelle sous le poids de son péché ». Donc il y a vraiment, quand il est dit que la création était soumise à la vanité, il y a vraiment eu des conséquences du péché sur l'ordre créé. Par exemple, à partir du déluge, on voit qu'il y a un changement au niveau de la nourriture. Regardez avec moi dans Genèse. On est en train de chercher à comprendre ce que veut dire le texte de Romains 8, 10, 20 et 21, où il est dit que la création était soumise à la vanité ou à la corruption. Et donc, on sait que c'est en relation avec le péché. Et au moment du déluge, donc les animaux ont été sauvés couple par couple dans l'arche. Et puis Dieu dit au chapitre 9, quand ils sortent de l'arche, vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, ce qui n'était pas le cas avant. Avant le déluge, l'homme n'était pas un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre. Mais l'accumulation du péché de l'homme a amener le déluge, et ce déluge, et c'est une sorte de traumatisme pour la terre et pour les animaux. Vous voyez? Et puis aussi, avant, on ne mangeait pas les animaux, maintenant on peut manger les animaux, en tout cas, ceux qui sont purs. Oui. Donc il y a vraiment une sorte de... L'ordre a changé à cause du péché, et à partir du déluge en particulier. Et puis déjà avant le déluge, on voit que à cause du péché d'Adam, Dieu dit, je maudis la terre afin qu'elle ne produise pas son fruit facilement et que ça oblige l'homme à gagner son pain à la sueur de son front. Et puis la femme aussi. Enfante, en tout cas, littéralement le texte dit dans Genèse 3,16, je multiplierai beaucoup ta souffrance et ta grossesse. Ça voulait dire que l'accouchement n'était pas nécessairement absolument sans douleur, mais c'était beaucoup plus facile, et qu'à cause de la chute, il y a un changement dans l'ordre de la création, il y a une augmentation des douleurs, il y a une malédiction sur la terre qui ne produit, qui produit pas son fruit, et puis avec le déluge, ensuite, il y a, donc, comme on vient de le voir, cette crainte chez les animaux, une sorte de traumatisme de la terre. Et aussi cette terre qui chancelle sous le poids de son péché. Donc tout ça fait dire à Paul, la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Alors, est-ce qu'il s'agit ici d'Adam? Est-ce qu'il s'agit du diable qui est pointé là? Quoi qu'il en soit, Adam a ouvert la porte et le diable s'est engouffré. Mais c'est clair que les animaux, la création, n'avaient pas. Comment dire, c'est pas eux qui ont ouvert la porte, c'est l'homme. À qui avait été confié le gouvernement de la création, c'est lui qui a ouvert la porte à cette vanité. Et puis ensuite, il est dit au verset 21, avec une espérance. En fait, c'est comme si Paul commentait le livre de la Genèse, et ça lui arrive souvent. Dans 1 Corinthiens 11, il reparle de la Genèse, dans l'épître à Timothée aussi. Il revient très souvent sur Adam, Ève, ce qui s'est passé au moment de la chute. Mais là, il ne parle pas d'Adam et Ève directement, il parle, même s'il en parle au chapitre 5 des Romains, mais il parle plus ici de la création plus globalement, et dit que d'un côté, cette création a donc été soumise à la vanité, au péché, aux conséquences du péché, on peut dire, mais, verset 21, avec une espérance. Avec une espérance. C'est quoi cette espérance? Cette même création sera libéré de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. De même que la création a eu part aux conséquences du péché d'Adam, la création aura part aux conséquences de la libération d'Adam. Et cette liberté glorieuse des enfants de Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ pour une humanité nouvelle, qui ceux qui sont fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Voyez. Donc de même que la création participe aux conséquences du péché, la création participera aux conséquences de la justification. Amen. Dans Romains chapitre 5, il s'agit de l'humanité qui participe aux conséquences du péché d'Adam et d'une nouvelle humanité qui participe à la justification par Jésus-Christ. D'accord ? Et ici, il s'agit carrément de la création au sens global. Donc ça inclut les animaux, le ciel, la terre, tout. Tout est inclus là. Hein ? Donc, au verset 20 pardon, et 21 du chapitre 8 de Romains, Paul, en quelque sorte, reprend ce thème de la chute et de la rédemption, mais il l'applique à la création. Verset 22, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » De quoi est-ce que Paul parle ici? On va voir le verset suivant qui dit « Nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » C'est-à-dire que, à la fois, nous qui sommes sauvés en espérance, nous qui attendons la résurrection de nos corps, d'accord, nous qui sommes dans le « déjà du salut » parce que Christ est mort sur la croix et le « pas encore du salut » parce qu'on attend le salut final, quand notre corps sera ressuscité, que tout sera, d'accord. De même que nous, on attend cet accomplissement, cette finalisation de toute chose, eh bien, la création, puisque la création est liée avec notre destin, d'accord, eh bien, la création elle-même soupire après cette libération, vous voyez. Nous savons, donc, verset 22, que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Alors, on pourrait se poser la question, quels sont les indices ou qu'est-ce qui fait dire à Paul que la création elle-même soupire et souffre les douleurs de l'enfantement? J'ai pas d'explication a priori, mais on a un texte dans l'Apocalypse qui peut éventuellement nous aider. Non, d'abord, c'est pas dans l'Apocalypse, c'est dans les Évangiles quand Jésus parle de la fin des temps. D'accord ? Donc prenons par exemple le discours sur la fin des temps. Il y en a un dans Matthieu, un dans Marc et un dans Luc. Je crois que c'est Marc chapitre 13 ou 14. Marc 13. Voilà. Regardez Marc 13, chapitre 1. Donc, Jésus décrit la fin des temps, mais il faut comprendre que, du point de vue du Nouveau Testament, la fin des temps, elle commence à la Pentecôte. Vous voyez ? Pour nous, la fin des temps, puisque c'est la fin, c'est toujours après. Nous, on n'est pas dans la fin des, on n'a pas l'impression d'être dans la fin des temps, si vous voulez, a priori, puisqu'on se dit que ce sera après, ce sera plus tard. Mais en fait, la fin des temps, elle dure depuis 2000 ans. On est dans les temps de la fin, d'accord, du point de vue du Nouveau Testament. Et puis, ce qui est vraiment la fin de la fin, c'est ce que la Bible appelle le jour du Seigneur. Hein? Mais il ne faut pas en faire on ne va pas rentrer dans tout ce qu'on appelle l'eschatologie, donc la théologie de la fin des temps. Mais si vous voulez, la fin des temps, elle est plus large que ce qu'on pense. Maintenant, le mot fin peut avoir plusieurs sens. Alors regardez ce que dit Jésus à ce sujet dans Marc 13. C'est lui qui nous donne les grandes lignes. Lorsque Jésus sortit du temple, Un de ses disciples lui dit, Maître, regarde, c'est quelle pierre, quelle construction. Ils étaient admiratifs du temple et c'était leur fierté nationale. Hein. Jésus lui répondit, Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc là, il choque les disciples, évidemment, en disant ça. Il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. Donc là, ils font une sorte de petite délégation, les meilleurs des meilleurs parmi les meilleurs disciples, qui viennent vers Jésus et qui disent, bon, là, il faut quand même qu'on te pose des questions, tu nous as dit quelque chose qui nous a choqués. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses? Ou bien on pourrait traduire l'accomplissement de toutes ces choses. Jésus se mit alors à leur dire, Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et diront, C'est moi, et séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous alarmez pas, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc vous voyez qu'il y a une fin dans la fin. Okay, je vous parlais de la fin des temps de manière globale, depuis la Pentecôte, quelque part, on est déjà dans la fin des temps, puisque la preuve, si vous voulez, sur quoi je m'appuie pour dire qu'on est déjà dans la fin des temps? Regardez dans Acte, on reviendra dans Marc, hein, donc ne perdez pas Marc, dans Acte 2. Quand Pierre commente la prophétie de Joël, tu peux entrer, hein? Tu peux entrer. Alors, Pierre, debout avec les 11, c'est le jour de la Pentecôte, ils sont remplis du Saint-Esprit, personne ne comprend ce qui leur arrive. Hein. Vous, juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours. Dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous voyez? Puis verset 19, je ferai des prodiges en haut dans le ciel, des signes en bas sur la terre. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Donc, si vous voulez, on est dans les derniers jours, et puis viendra le jour du Seigneur, qui sera comme le point d'orgue du jugement de Dieu sur la terre, dont parle l'Apocalypse. Et maintenant, je reviens dans Marc chapitre 13. Donc, Jésus parle de la destruction du temple qui va arriver, on lui pose des questions. D'abord, alors il parle globalement de la fin des temps, si vous voulez, mais que personne ne vous séduise, plusieurs viendront sous mon nom et diront c'est moi, etc. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous alarmez pas, cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est-à-dire, vous êtes dans les derniers jours, mais ce n'est pas encore la fin de la fin. Verset 8, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Ça, c'est une citation du prophète Ésaïe. Parce que ces prophètes dans l'Ancien Testament avaient vu ces choses prophétiquement. Et il y aura par endroits des tremblements de terre, il y aura des famines. Ce sera le commencement des douleurs. Notez bien l'expression. Ce sera le commencement des douleurs. Maintenant, regardez dans. Oui, donc après. On peut lire la suite, prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, vous serez battus de verge dans les synagogues, vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations, etc., etc. Donc, si vous voulez, après, si vous voulez, dans ce texte, dans ce discours de Jésus sur la fin des temps, il y a à la fois des choses qui concernent la première destruction du temple qui aura lieu en l'an 70. Sous Titus, c'est le général Titus qui va venir à Jérusalem pour détruire le temple. Mais Jésus parle aussi d'événements plus lointains, voyez? Donc c'est comme si Jésus parle à la fois d'événements relativement proches qui devaient arriver 40 ans plus tard et d'événements très lointains dont on n'a encore pas vu complètement l'accomplissement même aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut interpréter ce texte. Maintenant, dans Matthieu, alors il y a des gens qui disent non, 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 il parle que de ce qui allait se passer 40 ans plus tard, et donc la fin des temps est comme déjà arrivée, d'après certains. On serait déjà dans le. À mon avis, c'est un petit peu exagéré quand même. Alors, Matthieu, oui, il y a diverses interprétations. sur la fin des temps. Matthieu 24. Ce qui m'intéresse, moi, dans tout ça, je vous donne les grandes lignes. Ce qui m'intéresse, c'est l'expression « ce ne sera que le commencement des douleurs ». Ok? Matthieu 24, verset 8, tout cela, en parlant des tremblements de terre, des guerres, etc., tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Vous voyez l'expression ici? Et donc, pourquoi est-ce que c'est important cette expression, ce ne sera que le commencement des douleurs? C'est parce que l'expression des douleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand une femme est en train de, enfin, les heures, son heure arrive, comme dit Jésus dans Matthieu 16, dans Jean 16, quand son heure arrive, elle a des contractions qui sont d'abord espacées de, mettons, 4 heures. Et puis ensuite, ça se rapproche de plus en plus. Et au moment vraiment où le bébé est en train de sortir, on a l'impression que c'est je sais pas, toutes les minutes, toutes les 30 secondes, vous voyez, ça se rapproche énormément. Et donc, il y a une accélération. Il y a un resserrement, une accélération. Eh bien, quelque part, la fin des temps, Jésus la compare à ces douleurs de la femme qui va accoucher. Le mot douleur, c'est ça que ça veut dire. Vous voyez? Et on sait, tout le monde sait que pour une femme, l'accouchement, c'est très douloureux. On dit qu'un homme ne supporterait pas ces douleurs s'il devait y faire face. Vous voyez? Donc, et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que ici, Paul, dans le chapitre 8 des Romains, parle des douleurs de l'enfantement. Il parle de la fin des temps. Dans le discours de Jésus sur la fin des temps, l'expression qu'il utilise, ce ne sera que le commencement des douleurs, il y a un rapprochement entre la femme qui accouche et la fin des temps. Et donc la création est dans les douleurs. Maintenant, c'est comme si les grands tremblements de terre ou les grandes famines, etc., ce sont des contractions de la création parce qu'elle doit enfanter quelque chose de nouveau. Vous voyez? Et il y a des douleurs. Et dans ces douleurs, il y a comme, bon, heureusement aujourd'hui ça n'arrive que très rarement, mais il y avait une époque où il n'était pas rare qu'une femme puisse mourir à l'accouchement. Parce qu'il pouvait y avoir des problèmes d'infection, etc. Enfin bon. Et puis, en plus du fait que la femme, au moment de l'accouchement, et dans les quelques jours précédents et après l'accouchement, est très très fragile au niveau de sa santé. Je veux dire, la transformation de son corps et le. L'effort est tellement énorme que ça la fragilise. Okay? Au point qu'il y a des femmes qui, après un accouchement, elles ont il faut leur donner du fer, enfin, elles ont des soucis de santé, etc. Parce que c'est comme si toutes les réserves de votre corps sont utilisées. Voyez? Et donc, il y a comme une sorte de mort, en quelque sorte. Voyez? Il y a comme une sorte de mort au moment de l'accouchement. Grâce à Dieu, aujourd'hui, il y a de moins en moins de ce genre de problème. Et vous savez que Rachel, dans l'Ancien Testament, elle est morte à son accouchement. Et elle a voulu appeler son fils Ben-Oni, fils de ma douleur. Et puis le père, Jacob, a dit non, non, il sera appelé Benjamin, Benyamin, fils de ma droite. La droite, ça représente la force, vous voyez. Et donc, il renverse la douleur de l'accouchement et la malédiction, il la transforme en bénédiction. Ok? Mais ça veut dire que il y a une souffrance pour enfanter la vie nouvelle, mais quand cette vie nouvelle est venue, il y a de la joie, parce que Jésus dit dans Jean chapitre 16, la femme, elle est triste quand elle sait que son heure arrive, parce qu'elle se dit, je vais souffrir, elle sait que c'est un moment le moment peut-être le plus difficile de sa vie. Et puis après, quand l'enfant est né, elle oublie tout. Elle est heureuse, elle a tout oublié. Vous voyez? Et donc, pourquoi? Parce qu'elle a mis un enfant au monde et que c'est quelque part, c'est une des plus grandes joies. D'ailleurs, vous remarquerez une chose, c'est que les gens qui sont soi-disant athées, qui ne croient pas en Dieu, qui ne s'occupent absolument pas de la foi, au moment de la naissance dans une famille, les gens s'interrogent sur Dieu, très souvent. Parce qu'il y a quelque chose de tellement extraordinaire dans une naissance que même les gens qui ne sont pas croyants ou qui ne s'occupent pas du tout de Dieu, ils se posent des questions sur Dieu au moment de la naissance d'un enfant. Parce qu'ils se disent, c'est une vie nouvelle, il y a quelque chose. Ils peuvent pas juste rester en se disant, c'est quelque chose de normal. C'est un tel miracle, c'est un tel miracle, vous voyez? C'est tellement extraordinaire une naissance. Mais Pourquoi je vous dis tout ça? C'est qu'il y a une relation entre la fin des temps et les douleurs de l'accouchement et la création au niveau des tremblements de terre, des famines, etc. Ce sont comme des contractions de l'univers dans lequel on se trouve qui soupire et souffre. Les douleurs d'enfantement, pourquoi? Parce que il désire cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est comme si la création elle-même, vous me direz, mais je ne savais pas que la création avait une pensée, si on la personnifie en quelque sorte, et puis vous savez que Dieu peut parler à un moment donné, il y a un ange qui est dans le soleil, il y a un ange qui est dans l'eau, il y a des. Si vous voulez, pour nous, le monde, on nous a appris à l'école que le monde physique, il est inanimé. On parle du monde inanimé, mais dans la Bible, il y a, comment dire, tout est géré par Dieu, y compris par des anges. Que ce soit le soleil, que ce soit les étoiles, que ce soit, tout est géré par Dieu, si vous voulez. Hein. Donc quelque part, tout est entre guillemets vivant aux yeux de Dieu, parce que c'est lui qui a créé, et il est Dieu de la vie. Hein. Et donc il y a cette création-là, elle vit, elle a une vie. Vous voyez, mais pas une vie comme la nôtre, c'est pas une vie nécessairement biologique, mais c'est une vie quand même, parce qu'elle est créée par Dieu. Et elle souffre les douleurs de l'enfantement, et elle sait en quelque sorte que si elle était soumise contre son gré à la vanité du péché à cause de Adam, qui était le responsable de la création et qui a abdiqué de ses droits devant le serpent, et au lieu de chasser le serpent et de refuser cette incursion, il a cédé à la tentation, mais elle sait que donc c'est pas en quelque sorte sa faute, et donc elle désire qu'il y ait ces fils de Dieu qui reçoivent la gloire de leur résurrection et qu'elle-même puisse participer à cette gloire et cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ça va? Vous suivez comment ça marche? Maintenant, on va relire, vous allez mieux comprendre. J'estime, verset 18, qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Vous comprenez mieux maintenant, hein, ces douleurs de l'enfantement. Mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Et puis ce soupir, il va revenir au verset 26. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Sous-entendu, ces deux versets pour dire quoi? Versets 24 et 25. Et Paul insiste là-dessus. Il dit, attention, bien sûr que nous avons été sauvés, puisque ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, c'est fait, c'est bon. On ne revient pas dessus. Nos péchés ont été portés par Jésus sur la croix. Nos maladies, nos souffrances, tout a été porté par Jésus. Ok, ça c'est fait. Donc on a l'assurance du salut. Mais en même temps, on attend l'accomplissement de ce salut au travers de la résurrection. Vous voyez? Et donc on est aussi sauvé en espérance dans ce sens-là. Mais c'est une espérance qui ne trompe pas, parce qu'on a une assurance derrière. Amen. Donc on attend avec persévérance que tout ce pourquoi on a espéré, tout ce pourquoi on a vécu, sans le voir encore, on attend avec persévérance que ça s'accomplisse. Amen. Vous suivez? De même, c'est un peu comme si vous attendiez quelqu'un. Vous savez, quand vous attendez quelqu'un d'important qui vient chez vous et vous. On fait le grand nettoyage de la maison, on prépare le repas, etc. Et puis finalement, l'événement qu'on a préparé arrive. Vous voyez? Et puis il y a des enfants, peut-être dans la maison, qui aident, etc., qui se disent pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Et puis on a tous cette espérance, cette assurance, okay, que l'événement va arriver. Et donc quand il arrive, on est heureux d'avoir préparé. On est heureux que la poussière ait été faite. On est heureux que tout soit étincelant dans la vaisselle. On est heureux que le poulet ou la dinde, ou je sais pas trop quoi, ait fait le. D'accord, etc. Enfin, on est heureux, pourquoi? Parce que on sait pourquoi on s'est préparé et maintenant c'est l'accomplissement. Je prends l'image charte de la vie. Donc en fait, la vie est faite comme ça, de plein de choses qu'on prépare et on espère plein de choses dans la vie. D'accord? Parfois nos attentes sont déçues, mais d'une manière générale, on se prépare. Vous suivez? Et le drame, c'est quand on s'est préparé puis qu'il n'y a rien qui arrive. Mais avec le retour du Seigneur, on sait qu'on ne sera pas déçu. Okay. Mais il y a aussi des gens qui disent, qui doutent et qui disent ça sert à rien de se préparer. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, rien ne va se passer et qui se laissent aller. Et quand le Seigneur revient, il y a des. Vous voyez, c'est ce que dit Jean. Il dit afin que nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui lorsqu'il reviendra dans sa première épître. Vous suivez? Donc nous l'attendons, verset 25, avec persévérance. C'est ça. Bon, je parlais ici d'attendre avec persévérance. Verset 26, de même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous voyez qu'il était parlé des soupirs au verset 22, la création soupire. Verset 23, nous aussi nous soupirons, et maintenant c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui soupire en nous. Vous vous rendez compte? La création, nous-mêmes, et maintenant c'est le Saint-Esprit. Regardez le Saint-Esprit, verset 26, c'est l'Esprit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît l'intention, donc c'est le Père, connaît l'intention de l'Esprit, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Quel est le soupir du Saint-Esprit? Est-ce que vous connaissez le soupir du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'il soupire? Il est dit qu'il intercède en faveur des saints. Les saints, c'est ceux qui sont sanctifiés, qui sont mis à part pour Dieu. En fait, nous soupirons en nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais il y a aussi un soupir de l'Esprit, c'est-à-dire que quand on prie par l'Esprit, eh bien, on rentre dans le soupir de l'Esprit. Et le soupir de l'Esprit, c'est qu'il y a cette révélation des fils de Dieu pour que la création puisse être libérée, pour que toute cette nouvelle création puisse venir. D'accord? Donc.
Mais c'est quoi le rapport avec, excuse-moi, c'est quoi le rapport avec le fait de prier? Parce qu'il parle d'espérance et tout d'un coup il parle de prier.
Oui, pourquoi? Parce que dans cette attente avec persévérance, ce n'est pas une attente qui est passive. D'accord? Mais ta question est le rapport entre le verset 25 et le verset 26. Verset 25 parle d'attendre avec persévérance le salut. Verset 26 parle d'intercéder et prier. Parce que notre attente, elle n'est pas passive. Elle est active. On attend et on se prépare. D'accord? Et le défi qu'on a, c'est quoi? Galates 4, 19. Regardez avec moi dans Galates 4, 19. C'est là que tu as la réponse.
En gros, on se prépare et au bout d'un moment, on ne sait plus quoi faire, donc c'est le Saint-Esprit qui prend le relais.
Oui, on peut dire ça comme ça. On se prépare et à un moment donné, on ne sait plus quoi faire. C'est Saint-Esprit qui prend le relais. Regarde. Galates chapitre 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve, c'est Paul qui parle aux Galates. Donc les Galates ont reçu l'évangile. D'accord? Et Paul dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Tiens, Paul éprouve, dans Galates 4, 19, Paul éprouve les douleurs de l'enfantement. De nouveau. Donc il les avait déjà éprouvées. Vous suivez? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc. Paul s'inquiète pour les Galates parce qu'il se rend compte qu'ils se sont remis sous le joug de la loi, qu'ils ne marchent plus dans la foi et par l'esprit, comme il leur avait enseigné au départ. Ils ont commencé par l'esprit, ils ont fini par la chair. Et il dit, je souffre de nouveau pour vous les douleurs de l'enfantement, parce que quand il est dit que l'esprit, dans Romains 8, 26, prie en faveur des saints, c'est-à-dire qu'il prie pour nous, d'accord, pour que nous vivions déjà avant la résurrection, que nous vivions déjà la puissance de la résurrection en nous, Ok? Qu'on marche par l'esprit et qu'on soit déjà des signes du royaume. Et donc, qu'en tant que signe du royaume, parce qu'il est parlé des prémices de l'esprit. Donc, si vous voulez, la nouvelle création, elle est déjà en nous. Elle est déjà en nous. Vous suivez? De manière prophétique, de manière circonscrite, c'est-à-dire, ce n'est pas encore pleinement, vous voyez, tout n'est pas encore à 100%, mais on a déjà les prémices de l'esprit, on a déjà la puissance de résurrection en nous. Et donc, on est la nouvelle création, elle est déjà enfantée en nous, puisque Paul parle de Christ formé en vous. Et Christ ressuscité, c'est la nouvelle création. Ok? Quand Christ meurt sur la croix, c'est la mort de l'ancienne création. Quand il ressuscite, c'est la nouvelle création qui commence. Mais il est le premier-né de la nouvelle création. Vous suivez? Il est les prémices. La nouvelle création, elle soupire encore, elle attend encore. Et donc la meilleure manière de préparer le retour du Seigneur, etc., c'est de vivre déjà nous à notre niveau, en tant que mis à part du Seigneur, saint du Seigneur, c'est de vivre à l'intérieur cette nouvelle création, cette puissance de la résurrection. Est-ce que vous suivez? Donc Paul dit, je souffre les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que Paul devait travailler dans la prière à l'enfantement de la nouvelle création dans les églises qu'il implantait. Vous suivez? Parce que, suivez-moi bien, si, on va raisonner par l'absurde, s'il n'y avait pas de conversion et d'église implantée, et donc s'il n'y avait pas l'enfantement de la nouvelle création dans le cœur d'une nouvelle humanité, eh bien, il n'y aurait pas les moyens de gérer la nouvelle création que Dieu prépare, parce qu'il n'y aurait pas d'homme nouveau pour la gérer. Dieu a besoin d'un nouvel Adam pour gérer la nouvelle création. Vous suivez? Comme l'ancien Adam, avec son humanité, a failli, il faut un nouvel Adam avec une nouvelle humanité pour gérer la nouvelle création. Est-ce que vous me suivez toujours? Si on ne travaille pas à l'enfantement de la nouvelle humanité, eh bien, il n'y aura pas de nouvelle humanité pour gérer une nouvelle création, et donc l'espérance est détruite. Vous comprenez? Donc c'est nécessaire, dans cette optique-là, c'est nécessaire qu'il y ait des implantations d'églises, le maximum de conversions, des chrétiens qui vivent la vie nouvelle, parce que c'est l'espérance pour toute la création, pour tout le reste du monde. C'est la seule espérance qu'on a. Vous suivez ce que je veux dire? Si nous continuons à marcher dans la chair, s'il n'y a pas de conversion, si Christ n'est pas formé, enfanté en nous, d'accord? Eh bien, on n'a plus que la force de l'ancienne création. Or, cette ancienne création, elle est déjà condamnée à la croix. On sait qu'elle sera jugée. On sait que Dieu jugera la terre avec les œuvres qu'elle renferme. Et si nous n'avons pas en nous la puissance de la résurrection, d'accord? On ne sera pas sauvés. On va mourir avec l'ancienne création. Et qu'est-ce que sera la nouvelle création s'il n'y a personne pour la gérer? Est-ce que vous suivez toujours? D'accord? Parce que lorsque ce monde va être jugé, nous, il est dit qu'on règnera avec Christ. Alléluia. On fait partie de la nouvelle humanité. Est-ce que vous réalisez, que Christ en vous, l'espérance de la gloire? Colossiens chapitre 1. D'accord? Ça veut dire que la vie de résurrection en vous, quand vous priez par l'esprit, quand vous participez au soupir de l'esprit, quand vous priez pour vos fils et vos filles spirituels, pour que Christ soit formé en eux, vous participez à la préparation de la nouvelle création. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous réalisez que vous êtes les agents d'un monde à venir? Aujourd'hui, on parle du nouveau monde en politique. Et puis tout le monde se plaint en disant « Oui, finalement, nouveau monde, hein, c'est comme l'ancien monde, ça n'a rien qu'à changer. » Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, et puis ça fait combien? Ça fait des décennies, presque une génération, qu'en politique, on n'arrête pas de dire « le changement, le changement ». J'écoutais encore à la radio hier, Georges Marchais, c'était une archive, d'accord? On l'entendait qui disait « je suis le candidat du changement », d'accord? Et il est mort depuis longtemps, Georges Marchais. Le changement, on l'a toujours pas vu. On l'a toujours pas vu arriver. Donc, enfin, il y a certains changements, mais le vrai changement que la création attend, on l'a toujours pas vu. Vous suivez ce que je veux dire? Et quelque part, les gens dans la politique, ce qu'ils aimeraient, c'est un changement. Le changement, c'est maintenant, le changement, c'est demain. Vous voyez? Mais on sait qu'on ne l'aura pas. Et même là, on parle d'un nouveau monde au niveau politique avec la nouvelle élection qu'il y a eu, etc. Et puis les gens commencent à se dire, oui, enfin c'est nouveau, mais ce n'est pas nouveau. Les choses sont toujours comme. Il n'y a pas grand-chose. Donc si vous voulez, quittons la politique. C'est juste un exemple dans le monde naturel pour vous expliquer. Nous, on représente le vrai changement. Vous croyez ça? Ok? Malgré toutes vos. Vous dites oui, mais. Et le problème qu'on en dit, oui, mais regarde toutes les souffrances, regarde les difficultés, regarde les obstacles. Comment nous, dans cette faiblesse-là, dans ces souffrances, cette persécution, nous, on représente le changement? C'est difficile à croire. Vous voyez? C'est difficile à croire. Et pourtant, il y a en vous, il y a en nous, une semence de l'éternité, une semence de la nouvelle création. Et cette semence, quand elle sera vraiment sortie, eh bien, on verra, comme il dit dans 1 Corinthiens 15, cette nouvelle création à l'œuvre. Amen. Donc il faut soigner cette semence. Et on revient au verset 26 de Romains 8. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas? Parce qu'on est dans la souffrance. Parce qu'on est dans l'ancienne création. Parce qu'on se dit, mais c'est quoi cette histoire de nouvelle création? Comment est-ce que je peux prier? Comment ça marche? Vous voyez, je veux dire. Comment est-ce que c'est possible que des êtres humains comme nous, marqués par le péché, on puisse être des agents de la nouvelle création, de tout ce que Dieu veut faire? Ça, vous voyez, ça nous dépasse. On ne sait pas comment il faut prier. Mais l'Esprit lui-même, rappelez-vous que nous avons les prémices de l'Esprit, verset 23. Amen. Bien plus nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons nous-mêmes. Et là, Paul reprend, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Or, on a l'exemple de la prière de Paul dans Galates 4, 19. Je souffre de nouveau pour vous les douleurs de l'enfantement. Donc, il y avait les douleurs de l'enfantement dont on parlait au niveau de la création, les familles, les tremblements de terre. Mais il y a une autre douleur de l'enfantement qui est plus importante encore. C'est ce qu'on fait dans la prière. Amen. C'est-à-dire qu'on prie pour qu'il y ait des conversions et puis qu'il y ait des églises vivantes, remplies du Saint-Esprit. Et cette prière, c'est une prière difficile. C'est un enfantement. OK? Et au travers de cette prière, en fait, on prépare la nouvelle création. Est-ce que vous suivez? Compliqué? Et après, Paul, au verset 28, bon, ça va encore un peu de temps. Après, Paul, au verset 28, nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc il reprend, parce qu'en fait son thème c'est de dire nous souffrons, nous sommes dans la difficulté et la persécution et les souffrances, donc on peut être découragé. Et il parle d'attendre avec persévérance, il parle du soupir du Saint-Esprit, il parle de ce travail d'enfantement, il dit c'est normal, les douleurs de l'enfantement ça fait partie, excusez-moi l'expression, ça fait partie du jeu. Si on veut avoir la joie d'avoir mis un enfant au monde, la joie de la nouvelle création, il faut passer par ces douleurs. Vous suivez? Et donc il dit, en fait, nous savons que tout ça, c'est pas pour rien. Que toutes ces souffrances, c'est pas pour rien. Que ces douleurs, à la fois ce qu'on ressent nous comme persécution, comme opposition, et ce qu'on ressent dans la prière, c'est quand on prie, on lutte contre ces forces d'opposition pour que la naissance puisse avoir lieu. Vous comprenez? Regardez Rachel dans l'Ancien Testament. Rachel, c'est en fait celle que Jacob aimait, mais elle est remplacée par Léa, par le beau-père, sans que Jacob le sache. Et donc Jacob doit encore travailler 7 ans pour avoir Rachel. D'accord? Et finalement, il peut avoir Rachel, mais le problème, donc il a deux femmes, mais le problème, c'est que Rachel est stérile. Double peine. D'accord? D'abord, elle n'est pas aimée. Enfin, elle était aimée, mais elle était supplantée par Léa. Et puis, deuxièmement, elle est stérile. Mais Rachel, elle dit à Jacob, donne-moi un fils ou je meurs. Vous voyez? Et finalement, il dit que Dieu a exaucé Rachel. Donc, elle a prié pour avoir un enfant. Elle a tout fait pour vaincre cette stérilité. Vous suivez? Donc l'ancienne création, elle est marquée par la mort et par la stérilité. Et il faut qu'il y ait un enfantement pour que la nouvelle création arrive. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui se passe? Dieu leur dit, Ève, attention, tu vas enfanter avec douleur. Mais ta postérité écrasera le serpent. Donc, tu enfantes avec douleur, mais celui que tu vas enfanter, au final, c'est lui qui va vaincre le serpent, le diable, et donc qui va amener la nouvelle création. Vous suivez ça? Donc c'est très important l'enfantement. Parce que l'enfantement, si vous préférez, c'est la stratégie divine pour vaincre. C'est l'enfantement. La nouvelle génération, c'est la stratégie divine. Je ne sais pas si vous avez déjà, si vous jouez un peu aux échecs. Vous avez les petits pions qui sont devant, et quand vous arrivez, si avec un petit pion vous arrivez au bout de l'échiquier, il se transforme en reine ou en ce que vous voulez. D'accord? Ça, ça représente l'enfantement. Ça représente la nouvelle génération. Et c'est ce qui peut sauver la partie. Vous êtes en train de perdre et tout à coup, le petit pion arrive au bout et hop, vous avez là, vous êtes, en principe, vous êtes sur la bonne, sur la voie de la victoire. Donc, c'est le même principe qu'on a ici. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, verset 28, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, regardez, pour comprendre les versets 28 à 30, à quoi est-ce que Dieu nous a prédestinés? À être semblables à l'image de son Fils. Donc, à ressembler à Jésus. Et une des choses que Dieu prépare, quand on parle de la nouvelle création, l'œuvre que Dieu fait en nous est plus importante que l'œuvre que Dieu fait avec nous. D'accord? Vous pouvez faire plein de choses pour Dieu, mais à la limite, Dieu pourrait le faire tout seul ou sans vous. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est son œuvre. Donc ça, ce n'est pas compliqué. Faire des miracles, guérir les malades, faire plein de choses pour Dieu, c'est, en soi, ce n'est pas compliqué, parce que quand il y a l'onction, c'est facile. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce qui est plus compliqué, c'est l'œuvre que Dieu fait en nous, de transformation. Ça, c'est plus compliqué. Dans le sens que ça nous fait souffrir. Dans le sens qu'on résiste au Saint-Esprit. On ne veut pas changer. Et puis, on doit apprendre l'obéissance par la souffrance. Comme Jésus lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors, nous, combien de plus? Ok? Et le but de Dieu, ce n'est pas juste de nous prendre comme ça, du jour où on est converti, hop, nous transporter en direct Dieu pourrait nous transformer comme ça en un claquement de doigts et tout à coup qu'on devienne parfait en un instant. Alors oui, on est parfait en Jésus-Christ parce que nos péchés ont été enlevés du point de vue du statut. On devient fils immédiatement ou fille immédiatement. Mais du point de vue de la transformation intérieure, vous êtes d'accord avec moi, ça prend du temps. Et c'est une souffrance, oui ou non? Bon. Donc, Dieu aurait pu prendre Israël à la sortie d'Égypte et puis les transporter surnaturellement sur un nuage et les amener directement dans le pays de Canaan. Et puis, il aurait pu chasser à l'avance tous les habitants de Canaan et que les gens arrivent, poum, ils s'assoient sur une chaise, ils se trouvent dans une maison avec un bouquet de fleurs sur la table, le jardin qui est fait et tout, impeccable. Et ils sont comme ça, d'une seconde à l'autre, ils étaient en Égypte esclaves, dans la boue, en train de faire leur brique avec la paille. Et tout à coup, 5 minutes plus tard, ils se retrouvent assis avec le repas sur la table et les pieds sous la table, vous voyez ce que je veux dire? Sans effort, sans souffrance, sans guerre, sans passer par le désert, sans recevoir la loi sur Sinaï, hop, d'un seul coup. Dieu pouvait le faire, non? Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il voulait transformer leur cœur. Vous êtes d'accord? Et nous, il pourrait nous prendre, hop, et puis tout à coup, on règne avec Christ au ciel. D'ailleurs, de temps en temps, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais de temps en temps, on a prié, oh Seigneur, tu ne pourrais pas. D'accord? Bon, il n'y aurait pas un petit raccourci dans l'histoire. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Et c'est pour ça que Paul nous dit, attention, on a été sauvés, mais on est sauvés en espérance. Et il faut attendre avec persévérance. Et comment est-ce qu'on attend avec persévérance? Verset 28. Nous savons du reste que toutes choses, donc y compris les choses mauvaises. C'est ça la difficulté de ce verset. S'il avait dit que certaines choses, on pourrait dire oui, il y a des bonnes choses, ça je peux comprendre, mais les mauvaises choses, je ne vois pas en quoi ça m'aide. Ok? Mais Paul dit toutes choses. Concours au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier d'un grand nombre de frères. Ça veut dire que le but de Dieu, c'est de nous rendre semblables à Jésus, et ça passe par des souffrances, ça passe par toutes ces choses, d'accord? Ça passe par cet enfantement dans la douleur. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire que, en fait, du point de vue de Dieu, tout est déjà bon. Okay? Pour nous, on est dans notre processus, on a l'impression que le bout du tunnel est encore très loin. Mais pour Dieu, c'est comme si c'était déjà fait. C'est bon pour Dieu. On est déjà justifié, déjà glorifié, tout est bon. Parce que la semence de Dieu en nous est suffisante. Et elle va produire ce qu'elle doit produire. C'est une semence de vie. D'accord? Donc, on va faire une pause. Mais est-ce que vous avez des questions avant? Ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est clair? C'est sûr? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord de poursuivre ce but et de dire, Seigneur, je suis d'accord que tu me transformes pour être semblable à l'image de ton Fils? D'accord? Et ça revient à ce qu'il disait au verset 17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois, parce que si vous voulez, l'héritier, la différence entre l'enfant et l'héritier, dans Galates chapitre 4, l'enfant, il est potentiellement un héritier, mais il n'a pas encore atteint la majorité. Et entre le moment où il est enfant et le moment de la majorité, il est sous un précepteur, il doit apprendre des choses, d'accord? Et puis vient le moment de la majorité où il reçoit vraiment son autorité de fils, voyez? Et donc, il dit, si on est enfant, on est aussi héritier. Mais être héritier, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie la souffrance. Ça signifie devenir semblable à l'image de son fils. Ça signifie passer par là où Jésus est passé pour que nous aussi, on puisse régner avec lui. Vous suivez? Parce qu'on régnera avec lui. Mais il y a une école, il y a un but que Dieu a pour nous, et pour arriver à ce but, il y a un enfantement. Amen. Ce n'est pas ce qu'on entend d'habitude concernant l'Évangile, et pourtant c'est l'Évangile. Romain, c'est l'Évangile, d'accord? Et dans l'Évangile, il est aussi parlé de cette école difficile pour devenir semblable à Christ. Ça fait partie de l'intention de Dieu pour nous, du plan de Dieu pour nous. On est appelé à ça. Nous sommes appelés à, je crois que c'est Pierre qui dit, quand il parle de souffrir avec Christ, il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés. C'est fort quand même. On est appelé à régner, mais on est aussi appelé à souffrir. On est appelé dans ces souffrances à grandir. Et on est appelé à croire, au verset 28, toute chose concourt à mon bien, parce que je suis aussi appelé. Et il y a une destinée glorieuse. Amen. Et on n'est pas les seuls à souffrir. Toute la création soupire. Le Saint-Esprit soupire. L'Esprit et l'Épouse disent, viens Seigneur Jésus. Il y a un soupir. On attend ces choses avec persévérance. Amen. Que Dieu vous bénisse. À tout de suite.